everything gonna be alright. Oh yeah.
Woo! Rien de tel que de plonger dans la voix profonde de Coco Taylor pour commencer cette nouvelle émission.
Ouais,
de
on a changé le
The First Time Ahmed de Blues. On a changé, Timo?
Non, on a changé le début qui était chanté par Muddy Waters. D'ailleurs, on en a parlé il y a pas longtemps avec les copains. Que c'était la chanson Manish Boy de Muddy Waters qui était la chanson Je suis un homme, et ben là elle dit I'm a woman et ça nous fait du bien.
Coco Taylor, voilà. Donc on commence cette émission, bienvenue.
Bonjour
déjà
à tous,
ouais,
en fait.
Salut. Une émission consacrée donc aux guitares, voilà. On avait fait une émission sur les guitares, même sur la guitare.
Sur la guitare en général.
L'émission numéro 13 que vous pouvez aller podcaster sur studioszef.fr à l'issue de l'écoute de cette émission pour en savoir plus. Donc une émission sur les guitares. On va vous parler des guitares légendaires, hein, voilà, des Fender,
guitares électriques.
Des guitares électriques tout à fait, Gibson, Gretsch et autres marques américaines. Voilà, donc on va apprendre des choses dans cette émission, ça va être super intéressant. Timo, on commence avec, avec la Fender.
Ouais, on a beaucoup de choses à dire, donc on va commencer tout de suite avec... voilà, c'est la Fender Telecaster, donc c'est le premier modèle de la célèbre marque de guitare Fender, qui voit le jour en 1949, mais qui est commercialisé vraiment par Fender à partir de 1951 pour être précis. C'est une des premières guitares électriques à corps plein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas creuse, elle est vraiment en bois plein, et c'est la première réussite commerciale d'une guitare électrique en bois plein. Donc en 1950, elle s'appelle Broadcaster. Mais suite à un litige avec la marque, une autre marque de guitare et d'instruments Gretsch, qui avait déjà utilisé le nom pour des éléments de batterie notamment, ben, y a eu litige, donc ils ont abandonné ce nom-là. Donc Leo Fender, le célèbre créateur de guitare de Fender, trouve le nom de Telecaster en lien avec la télévision qui à l'époque commençait et qui faisait figure d'avant-garde à l'époque, c'était waouh la télévision, donc Telecaster.
Ah ouais, d'accord. Et donc le but de cette émission, c'est quand même d'écouter différents sons de guitare, parce qu'on peut écouter des morceaux sans forcément les reconnaître. Quand on est spécialiste, on se dit « Ah tiens, ça c'est une Gibson Les Paul, ça c'est une Telecaster, etc.
Bah, » C'est un peu comme les vieilles voitures américaines, elles ont chacun leur style, chacun leurs chevaux, chacune leur style, chacune leurs chevaux, leur son, c'est extrêmement particulier, et jusqu'au fait que ça influence le style de jeu, c'est très important. Voilà, c'est pas juste on branche une guitare et ça fait de la guitare électrique, pas du tout.
Ouais, bah ça c'est clair. Et donc pour revenir à la Fender Telecaster, donc c'est une guitare qui est d'abord utilisée par des musiciens de blues, de country, et en fait au fur et à mesure de son histoire, elle subit d'importantes modifications, et notamment des touches en palissandre dans les années 60, ce qui rend un son plus rond, parce qu'en fait en fonction du bois qu'on utilise, il y a une résonance différente en fait.
Ouais tout à fait, ouais. Sur les touches, on appelle ça les touches, tout à fait.
Et donc c'est à cette époque là dans les années 60 que les jeunes musiciens britanniques se mettent à l'utiliser, donc comme Jeff Beck, Jimmy Page, Rory Gallagher, notre chouchou Rory Gallagher. Voilà, et donc il y a plusieurs modèles qui sont réalisés au cours de la longue histoire de la Telecaster. Il y a différents modèles de Telecaster,
bien sûr, il y a un modèle de base et puis après ça a été décliné. Bon ben voilà, c'est de l'industrie, c'est du commerce,
on
il a fallu
des
adapter.
Micros,
carrément changé l'esprit initial de cette guitare.
De la guitare, elle évolue normal.
Surtout qu'à la base, cette guitare, le souci de son créateur, Leo Fender, c'était vraiment la simplicité, quoi. Faire quelque chose de simple, de solide, qu'on va pouvoir usiner. Et c'est cette simplicité là qui a donné un objet qui est complètement révolutionnaire. Voilà, il y a des exemples très précis comme avec un manche qui est vissé au lieu d'être collé comme sur d'autres guitares, notamment les Gibson, donc ce qui le rend remplaçable en fait. Donc si on casse le manche, on peut tout simplement le changer. Voilà, il y a une plaque de protection aussi sur la table, c'est un petit peu technique mais c'est important pour économiser la lutherie au niveau de la table, donc pour éviter que les coups de médiator abîment trop la guitare.
Bois.
La tête de manche est assez fine pour permettre de tailler le manche dans des morceaux de bois qui sont
plus petits.
Un petit peu plus petits. Bon, voilà.
Ça, c'est pour des questions d'économie quand même, quoi. Parce que le but quand même des créateurs et des vendeurs de guitares, c'était de faire une guitare qui coûte pas cher à produire quand même, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ouais. Et pour parler son, c'est des micros qu'on appelle simple bobinage, assez simple, ce qui donne un son assez claquant, très précis, très particulier.
Alors, on a envie d'écouter ça, bien sûr. On va écouter du Muddy Waters pour changer un bluesman avec Honey Bee. Et pourquoi, Timo, on écoute ce morceau?
Parce qu'il a fait quasiment toute sa carrière de guitariste électrique sur une Fender Telecaster. Et là, on vous propose une interprétation très particulière, mais vraiment, c'est du Muddy Waters. Allez, je vous laisse écouter.
Back home to me.
Yeah, Muddy, c'était super sur sa Telecaster, ouais. Un morceau où on entend vraiment bien la guitare.
Ouais, il avait une manière tout à fait spéciale de jouer. C'était un musicien qui jouait sur des guitares acoustiques, que de la slide guitare. Il savait faire que ça. Il savait pas vraiment faire de vrais solos pincés, avec des cordes pincées. Donc, il a fait pareil avec la Telecaster et ça donne ce son inimitable.
C'est clair, parce que souvent, en fait, on peut se dire, ouais, mais la guitare, c'est un peu agressif. Tu sais, quand on écoute les morceaux, on pense souvent les aigus, les trucs, mais en fait, il faut aller un peu plus loin. Et nous, c'est ce qu'on vous permet de faire en écoutant cette émission consacrée aux guitares et aux grandes marques de guitares. Voilà, américaine. Alors on était sur la Fender Telecaster, on va passer à la Fender Stratocaster. Juste pour vous dire un petit mot sur Léo Fender qui a été le fondateur en fait de la boîte qui fabrique ces guitares. Il a commencé en fait, il avait un magasin qui était spécialisé dans le dépannage de postes radio et en fait il faisait la fabrication et le montage d'éléments pour petits amplificateurs, etc. Et donc d'où ensuite l'idée de vu qu'il faisait ces éléments là d'amplificateurs, etc., micro et compagnie, hop, et il a fini par faire des guitares, quoique Fender fait encore des amplis, etc.
C'est une énorme entreprise.
Voilà. Donc on passe à la Stratocaster, Timo.
C'est la guitare la plus connue au monde, hein, la forme de guitare la plus connue au monde. C'est le deuxième modèle qui a été conçu par Fender. Elle est devenue l'icône du rock, hein. N'ayons pas peur des mots. C'est l'un des modèles les plus copiés dans le monde. Une connaissance à moi les appelle les guitares qui ont une forme de Stratocaster, mais qui ne sont pas des Stratocaster, des Fender plutôt. Ce sont des guitares souvent de bon marché, les appellent les Stratocagettes. Voilà.
Ah ouais.
Les guitares, les fausses Fender. Et elles sont nées de remarques des premiers guitaristes qui utilisaient les Telecaster. Fender, Léo Fender écoutait beaucoup les guitaristes qui utilisaient ces guitares. Et donc, beaucoup d'entre eux trouvaient que la guitare était. Ça nécessitait quelques améliorations. Voilà. Donc, des choses un peu plus élaborées. Donc, ils ont équilibré la guitare, ils ont rajouté un micro. Donc, la guitare maintenant a trois. La Stratocaster a trois micros. Ils ont rajouté ce fameux vibrato là.
Petite manette là sur laquelle tu.
Voilà, c'est ça. Que Hendrix adorait triturer. Et le nom a été inspiré de la conquête spatiale de l'époque, stratosphérique, Stratocaster. Et c'est encore Léo Fender qui est à l'origine de cette guitare. En 1954, il élabore les premiers dessins. Et la guitare, dès le début, est pensée pour réaliser une production en série. Toutes les pièces sont démontables. Tout est usinable. Même le corps a été pensé de la guitare a été pensé pour être fait à l'usine par des machines. On rentre dans l'industrie.
Pour être fabriqué aisément, ouais.
Ouais.
Donc encore une fois, ça c'est une guitare à corps plein comme la Telecaster. La Stratocaster, elle est robuste, solide. Elle passe allègrement les épreuves du temps malgré l'utilisation extrême des guitaristes. On peut imaginer qu'ils ménageaient pas leur monture, leur guitare, ça c'est sûr. Et alors en fait, dès le début, elle a, comme tu le disais Timo, elle a un design particulier. Hein, elle a des couleurs aussi très particulières parce que les couleurs qui lui étaient attribuées, c'était des couleurs vives qui étaient similaires aux peintures des voitures américaines
C'était révolutionnaire.
De l'époque. Ouais, voilà. Donc,
on voyait la guitare comme un instrument un peu couleur bois, toujours assez noble.
Ouais.
Là, on osait mettre des couleurs rouges, vives, bleues.
Rose.
Enfin, bon, peut-être pas rose, mais.
Pas encore.
Je sais pas. J'étais
pas paillette.
J'étais pas né.
Voilà, donc en fait la forme de la Stratocaster est nommée French Curve, French, mais en fait je pense que c'est par rapport à pourquoi French Kiss,
je sais pas. French. Le glamour à la française.
Voilà, le romantisme et donc aussi elle avait un poids qui n'était pas au hasard. Voilà, elle à l'inverse de la Gibson Les Paul dont on va vous parler tout à l'heure,
qui est très lourde.
Elle était légère, voilà, donc c'était plus facile pour les musiciens comme.
Comme tous ceux qui l'ont utilisé, hein, c'est devenu une véritable. Qui l'ont utilisé, ouais, c'est devenu un objet de mode presque avec Jimi Hendrix, Mark Knopfler qui l'a tripatouillé, Eric Clapton, David Gilmour qui a réussi à avoir un son extraordinaire avec Pink Floyd avec, et Stevie Ray Vaughan qu'on va écouter. Donc, on ne savait pas quel morceau mettre pour illustrer ce son-là. Donc on avait le choix entre Stevie Ray Vaughan et Jimi Hendrix. Donc on a choisi un morceau de Jimi Hendrix joué par Stevie Ray Vaughan qui s'appelle Voodoo Child.
Mountain.
Joseph
91.1
The first time I met the blues.
C'était la Stratocaster, la Fender Stratocaster de Stevie Ray Vaughan, diabolique.
C'est clair.
On va se consacrer à une autre marque. On fait de la pub, hein, quelque part, mais c'est.
Oui, mais vu qu'on cite plus de 3 marques de guitare, c'est, c'est pas de la publicité.
Ouais, ouais. Donc voilà. On va passer sur les Gibson.
Exactement. Donc évidemment, hein, ces entreprises-là de guitare se sont toutes tirées la bourre au fil des années. Et donc on va parler de Gibson. Alors Gibson, petit moment historique, voilà, a été fondé par Orville Gibson en 1902 dans le Michigan. Alors lui, au début, en fait, il fabriquait des mandolines. Et une mandoline, moi, j'avais une idée, peut-être, tu sais, d'un instrument un peu moyenâgeux, etc. Enfin, voilà, j'avoue que là...
Le luth.
J'étais... Exactement, parce que la mandoline fait partie de la famille des luths. Mais donc, lui, il faisait des mandolines électrifiées. Et en fait, ça ressemble un peu à un banjo, mais avec quand même plus de bois qu'un banjo. Et ça a cette forme-là, voilà. Donc, il faisait plutôt des mandolines qui pouvaient être montées en série. Et ensuite, Orville Gibson, au début du XXe siècle... invente une guitare, la Arc Chop. En fait, c'est une guitare qui a les lignes courbées et qui est inspirée en fait des violons et des violoncelles, tu vois, une guitare bien, bien arrondie avec une caisse de résonance acoustique. Il en fait aussi des électro-acoustiques et puis il finit par fabriquer des guitares qui sont plates. Voilà, donc en 1918, Orville Gibson décède, la boîte est rachetée et dans les années 30, c'est là où elle commence vraiment à monter en fait cette boîte parce que elle fait des guitares acoustiques, comme je vous le disais tout à l'heure. Et en fait, c'est notamment l'époque des big bands, quoi, voilà, dans les années 30.
Les guitares de jazz.
Exactement. Donc, ils vendent beaucoup de guitares à cette époque-là. La seconde, on fait un petit saut encore dans le temps. Durant la Seconde Guerre mondiale, bah, la production de guitares, elle diminue parce qu'il n'y a plus trop de métal, plus trop de bois. Donc, ils sont un peu en pause pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais heureusement, le début des années 50 arrive et avec la naissance des guitares électriques
qu'on connaît aujourd'hui.
Mmh. Et il y a la Les Paul. Voilà. Alors Les Paul, en fait, c'est le nom. La Gibson Les Paul, c'est le nom du créateur, soi-disant. Parce qu'en fait, je me suis renseignée évidemment pour préparer cette émission.
Il n'a pas eu le temps de.
Et ben, en fait, on dit que c'est lui. Et puis à un autre moment, on dit, ben en fait, celui qui avait la boîte Gibson, il voulait avoir un nom connu en fait pour donner à sa guitare. Et lui, c'était un mec, Les Paul, qui était connu. C'était un musicien très populaire dans les années 50. Et donc, il s'est dit, moi, il me faut un nom, une marque, quoi. Il faut un truc qui sonne pour ma guitare. Donc, je vais demander à Les Paul. Et apparemment, il lui a amené un prototype. Et il lui a dit, bon, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aimerais bien mettre votre nom. Et Les Paul aurait dit oui. Il aurait fait 2-3 modifs qui, finalement, n'étaient pas si déterminantes que ça. Voilà, c'est ce qu'on dit. Alors après, si on va dans Gibson.com, là... Eux, ils vont dire évidemment que c'est lui, pionnier dans la technologie des instruments de musique, qu'il a créé de A à Z.
Ouais, c'était surtout un musicien, Les Paul.
Oui, mais apparemment, lui, il était quand même pas. C'était pas non plus Enfin, je veux dire, c'était quand même quelqu'un d'intéressant qui connaissait les instruments de musique et qui en a créé. Mais là. Apparemment, c'est pas lui qui l'aurait véritablement créé, cette Les Paul mythique. Voilà. Et donc, pour parler de cette Les Paul, dans les années 50, Gibson se dit, moi, en fait, il faut vraiment que je cherche de nouveaux débouchés. Donc, il se dit, il faut que je sorte une guitare, tac, il sort la Les Paul. Et puis, en fait, il voulait évidemment faire concurrence à Fender, qui, lui, commençait à sortir des guitares plus ou moins intéressantes. Voilà, et en plus, pour Gibson, pour le gérant de Gibson à l'époque, ce que faisait Fender, c'était des planches. Il disait, oui, bon, c'est une planche, c'est une guitare plate, on coupe dans un morceau de bois, etc. Mais c'est ce qui marchait à l'époque. Donc, en fait, la boîte Gibson a évidemment dû s'aligner.
Des solid body.
Voilà, exactement, ils ont dû s'aligner. Donc, voilà, hein, la Les Paul, c'est hyper, c'est emblématique, c'est une une guitare qui a été élevée au rang d'icône, tout le monde la connaît. Elle est quand même directement issue de la lutherie de guitare traditionnelle, mais elle a une forme un peu spéciale, notamment en fait si tu veux aller dans les aigus.
L'accès aux aigus est facilité.
Exactement. Ouais. Alors pour les droitiers, la main gauche, clac, vous la mettez au niveau de votre nombril, là, et puis là, vous pouvez aller faire les, les solos et tout, kiffer, etc. Là, c'est par là que ça se passe.
Ouais, devant la glace.
Exactement, voilà. Bon, bah, moi je propose qu'on écoute un petit morceau hein, de jouer
oui,
sur une Les Paul.
Encore une fois, c'était pas évident de choisir parce qu'il y a eu énormément de gens qui ont joué de la Les Paul.
Hein. Bien sûr.
Clapton, Jimmy Page, ils ont tous joué en fait à un moment ou un autre de la Les Paul. Et là, on a choisi Fleetwood Mac. Mm-hmm. Donc, c'est Peter Green là qui. C'est un live hein, qui arrive à sortir un son extraordinaire de sa guitare. Et on écoute le célèbre...
Black Magic Woman. I've got a black magic woman. I've got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. She's got me so blind I can't see it. That she's a black magic woman and she's trying to make the devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Now don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. You're messing around with the tricks. Might just break up my magic stick. Spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. You're turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. Yes, I need you so bad. Yeah. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà.
Peter Green.
Peter Green, voilà, avec, avec une Les Paul. Mm. Une Gibson Les Paul. La Gibson Les Paul qui est née pour véritablement faire concurrence à la Telecaster de Fender. Bon, bah moi, je pourrais pas dire laquelle est la meilleure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mecs qui jouent en même temps.
Ouais, tout à fait.
Voilà, donc Gibson a fait cette Les Paul qui a été déclinée, mais je sais pas combien de fois.
Ouais, il y en a
fait,
de toutes les sortes, de tous les genres. Ça a été assez impersonnalisé, si je puis dire. Je sais pas si c'est français, mais... On l'a un peu construit dans tous les sens,
quoi.
Modifié, voilà.
Ouais, voilà, c'est un peu comme c'est comme une maison, tu changes le
en
toit,
fait,
tu changes les fenêtres, tu
les
pouvais
des...
plusieurs pièces, quoi.
Les premières des années 50 sont très caractéristiques encore, ont vraiment un son précis, à tel point qu'elles sont ressorties aujourd'hui, c'est-à-dire refabriquées dans les conditions de l'époque.
Ouais.
Mais c'est dire qu'au final, on revient à l'essentiel parce qu'on en a tellement fait que ça a plus de charme. Ça a moins de charme, en tout cas.
Ouais, il y avait plusieurs modèles, standard, custom, il y avait aussi la junior, tu disais, non ? Enfin voilà, il y a eu plein de déclinaisons possibles. Alors en fait, donc cette Les Paul est sortie en 54, si je dis pas de bêtises, non, en 52. Donc pendant une décennie, ça a été un véritable succès. Et après, de 61 à 67, on n'a pas vu beaucoup de Les Paul. Elles n'étaient pas beaucoup vendues. Donc la marque Gibson s'est dit, bon bah il va falloir qu'on
agisse.
Change. Il va falloir faire quelque chose, et donc ils se disent on va sortir la Les Paul SG. Voilà, Les Paul SG comme Solid Guitar. Voilà, c'était aussi une guitare pleine. Et donc Gibson la montre à Les Paul. Les Paul dit non mais moi ça me va pas du tout cette forme là. Il dit qu'il y a des cornes de Belzébuth, parce qu'en fait faut imaginer qu'en fait c'est comme un... Elle a deux pointes, en fait, des deux côtés, quoi, en haut
ouais,
et,
comme des petites
en
cornes
et en
de diablotin.
Voilà, comme des petites cornes. Et Les Paul aurait dit à un journaliste,
le design
est
super.
Y a de quoi se blesser avec ça quand on joue de la guitare. Donc moi, elle ne me plaît pas. Donc en fait, il s'est un peu battu avec la marque Gibson pour faire retirer son nom. Et finalement, en fait, c'est devenu la SG. Et en fait, la marque de guitare a aussi voulu, à cette époque-là, sortir... un instrument qui pouvait plaire en fait au nouveau groupe naissant de pop rock. Voilà, il fallait se renouveler, la musique évoluait, on voulait pas rester avec un instrument qui avait l'air vieux, même si aujourd'hui c'est vintage, on kiffe ce qui est vieux, mais là à l'époque il fallait véritablement évoluer. Donc en fait, comme on le disait, c'est des solid body, hein, c'est une pièce de bois encore, c'est souvent fait en acajou en
c'est
fait,
des guitares pleines
des guitares pleines, pas de caisse de résonance donc. Et des groupes comme AC/DC, et notamment le guitariste Angus Young, ont fait sa réputation à cette guitare-là. Il y a eu d'autres guitaristes aussi, hein, hyper connus, comme Zappa.
Oui, Zappa, beaucoup de... quasiment tous les guitaristes de ces époques-là, des années 60-70, ont joué un moment sur ce modèle de guitare. Pour les plus connus, il y a quand même Pete Townshend qui l'a largement popularisé.
Des
voilà, en la rendant terriblement hard rock, il n'hésitait pas à la fracasser, c'est ce qu'il a fait à Woodstock par exemple, à taper dedans sur les amplis, et tirer un espèce de son brut, violent, enfin c'est un des personnages qu'il a le plus développé, et qui travaillait avec la marque Gibson.
Ouais, et après il y a eu Louis Bertignac avec Téléphone.
Oui, bien sûr, ouais, voilà. Qui a un super son, c'est une SG Junior, c'est-à-dire qu'il y a... Il n'y a qu'un seul micro dessus, simple bobinage, et qui a un son du tonnerre.
Et bien alors, on va tout de suite découvrir le son, pour ceux qui ne connaissent pas, de la Gibson SG Solid Guitar. C'est The Derek Trucks Band avec Crow Chain.
There's a reason I told Crow Jane, don't you hold your head. silver spoon. Ain't nobody gonna take Coach's place. There's a reason I told Coach, don't hold your head so high. Someday, baby, you know you gotta die. Coach, Coach, Coach,
Joseph
91.1
The First Time I Met the Blues. Et oui, vous êtes bien en train d'écouter The First Time I Met the Blues, une émission consacrée aux guitares de légende
électrique.
Exactement, mais tu fais bien, j'avoue, de le préciser parce que j'oublie.
J'étais payé pour dire électrique.
C'est ça. Donc là, on était sur les Gibson, et pour conclure ce chapitre et tourner enfin la page vers d'autres horizons et vers d'autres marques, je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, Gibson était une marque toujours ultra compétitive, voilà. Sauf dans les années 80, il y a eu un petit flop, donc il y a deux personnes qui ont racheté la boîte. Pendant plus, en fait, je crois que dans les années 80, pendant 3-4 mois, il n'y a eu plus aucune production. Mmh. C'était à l'arrêt, voilà, ça fonctionnait plus, il y avait beaucoup de pertes d'argent. Et deux hommes ont repris la boîte et ont évidemment redoré l'image de marque de Gibson.
Bon, dernière nouvelle, il y aurait quelques petits soucis
c'est vrai
du côté de la firme, ouais. Mais c'est des rumeurs.
En tout cas, Gibson possède plusieurs marques, notamment Epiphone. Mmh. Toi, tu sais très bien, Timo, vu que tu possèdes une Epiphone. Mmh. Voilà, donc ils vendent des imitations, en fait, non, des copies, on va dire.
Oui, bah, c'est dans le cadre d'un marché qui s'est complètement mondialisé de la guitare. Y a des sous-marques qui sont créées, ils ont racheté des sous-marques, ce qui leur permet de fabriquer des guitares à moindre coût avec des gens qui sont moins bien payés que des travailleurs américains ou européens. Et voilà, c'est des sous-marques de guitares qui sont moins bien que les originales et qui leur permettent d'écouler des centaines de milliers d'exemplaires. Mais il semble que ce modèle économique-là ait fait son temps.
Bah écoute, hein, c'est le retour de bâton, la monnaie de la pièce, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, après Gibson, on va passer à la marque Rickenbacker. Et pour nous introduire dans le monde des Rickenbacker, on va s'immerger. Voilà, j'avais un peu du mal à enchaîner les notes hein, quand j'enregistrais. Ah mince, on est à l'antenne. Voilà, c'était moi en enregistrement. Non, c'était nul, désolé.
Donc c'était un extrait de son Rickenbacker, donc la Rickenbacker 360. Ce sont six caractéristiques des années 60, entre autres les Beatles, les Who, voilà.
Jouer avec la 360.
Ouais, avec cette guitare qui est tout à fait particulière.
Donc Rickenbacker, c'est évidemment un fabricant de guitares américain. On parle que d'américains aujourd'hui dans cette émission-là. Ils fabriquent des guitares, des basses électriques et ils ont une véritable réputation de faire des instruments de qualité.
De lutherie, encore voilà. Aujourd'hui.
Et en fait, ils fabriquent encore... c'est des artisans, en fait, des luthiers toujours qui fabriquent les guitares majoritairement, non? Ou il y a encore de
oui,
c'est
oui,
un véritable
bien sûr.
Artisanat. Quoi.
Oui, bon, après, il y a quand même beaucoup de volume, mais...
Oui. Mais ils font quand même de la...
Oui, c'est très réputé.
Exactement. Et en fait, donc, pour ça, justement, vu que c'est fait, c'est pas forcément fondu dans du métal ou fondu dans du plastique, voilà, c'est des guitares qui ont une réputation. Et il y a encore un délai assez long. Quand tu commandes une Rickenbacker, visiblement, tu l'as pas le lendemain livré par,
par
la poste.
Oui, bien sûr, tout à fait.
Voilà, donc c'est une société qui est vieille aussi, qui a quelques années.
Ouais, donc ça a été fondé en 1931, pour être très précis. Nous sommes très précis dans cette émission. Elle est produite, à la base, ils produisaient des guitares hawaïennes électroniques, là. Donc des guitares lap steel, on appelle ça comme ça. Donc c'est vraiment les premières guitares électriques dotées de ces fameux micro-électromagnétiques qui aujourd'hui équipent toutes les guitares. Donc la société connaît des hauts, des bas, elle a même été revendue ainsi que ses brevets. Alors un équipementier de Fender qui aurait racheté ses brevets, d'où le pourquoi Fender était en avance sur ses concurrents, notamment pour les micros électromagnétiques. Ça viendrait en fait de la technologie Rickenbacker, à vérifier. Puis elle est remontée un peu plus tard et elle se met vraiment à créer des guitares dans les années 50 avec un certain Roger Rosmersal. C'est pas évident à dire le nom. Donc différents modèles sont devenus tous célèbres, dont la 360, donc la Rickenbacker 360 que nous allons évoquer. Donc les sonorités sont très particulières, hein. En particulier celle de la 360, c'est pour le coup là une guitare creuse, c'est un quart de caisse, un son plutôt clair et dénué de distorsion. On n'avait pas pour habitude de mettre de la grosse disto dessus, envoyer du grunge. C'est un son qui est complètement caractéristique de la pop des années 60, qui est tombé en désuétude dans les années 70.
Oui, donc là, ça, c'était des hollow body, des corps vides, en fait, contrairement à celles dont on parlait tout à l'heure, aux guitares qui étaient des...
Solid body.
Et donc, parce que tu expliquais que solid body, ça permettait de jouer de manière amplifiée, plus amplifiée, c'est ça ? Pourquoi on est passé à des corps pleins, en fait, des guitares corps pleins ?
Alors, c'est que les musiciens, de plus en plus, pratiquaient un son de plus en plus électrique. Excusez-moi pour la répétition. Mais donc, ce son-là, la puissance du son... font que les instruments creux saturent au bout d'un moment. Ça crée une espèce de Larsen qui est insupportable pour le spectateur, d'où la volonté des artistes, des guitaristes de l'époque, de essayer de nous enlever ces Larsen qui sont insupportables, on en a marre, d'où la nécessité de créer ces instruments en bois plein. Ce qui n'est pas le cas de la Rickenbacker 360.
Dont on parle, mais c'est intéressant d'expliquer pourquoi on s'est dit, tiens, on va faire des guitares pleines, quoi, tu vois.
Ouais.
Donc là, la 360, elle, vous l'avez compris, elle est creuse. Et donc, c'est des mecs comme George Harrison des Beatles, Pete Townshend, on parlait des Who tout à l'heure, John Lennon aussi, et plus récemment R.E.M., Paul Wheeler à The Age qui
jouait sur cette guitare-là. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a eu un espèce de trou à partir de la fin des années 60 jusque dans les années 80 où elle est redevenue à la mode.
Et ben on écoute un petit morceau du coup.
On va écouter I Can Explain de The Who ou Pete Townshend utilise cette guitare Rickenbacker 360. Vraiment très années 60, The Who I Can Explain. On va parler d'un autre modèle de guitare qui a marqué l'histoire du rock.
Exactement.
La Gretsch 6120.
Ouais, Gretsch, une autre marque américaine. Ils font des basses, des guitares, des batteries, évidemment, créées en 1883. Donc une marque une marque des débuts, en fait, hein, un peu comme Gibson, fin 19e siècle. Et en fait, la guitare est très particulière parce qu'elle a une forme un peu comme une femme gironde, quoi. Elle est hyper arrondie. En fait, il faut aller faire un petit tour sur le net si on vous met l'eau à la bouche pour découvrir les différents modèles de guitare, si vous ne les connaissez pas.
Ou si tout simplement vous voyez ce que c'est le rockabilly, avec le guitariste qui se dandine, avec le contrebassiste qui monte sur sa contrebasse, le guitariste généralement
a une Gretsch.
A une Gretsch. De 6120.
Exactement, donc la Gretsch a une esthétique très particulière et un son aussi particulier, c'est une demi-caisse.
Ouais, c'est une demi-caisse, pour le coup là pas tellement jazz, hein, plutôt rock'n'roll au sens rockabilly.
Ouais.
Donc cette guitare est née quand la marque a voulu concurrencer la marque Gibson dans les années 50 avec ce fameux partenariat avec Les Paul. Donc Gibson avait un partenariat avec Les Paul. Gretsch a voulu faire de même, donc ils ont contacté Chet Atkins, le célèbre guitariste américain. Donc voilà, ils voulaient avoir son avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire, si vous vouliez une guitare idéale, qu'est-ce que ce serait. Donc ils ont créé cette guitare, la 6120, et Voilà, il y a plusieurs autres modèles hein, qui ont été créés ensuite avec lui. Et donc, beaucoup de guitaristes ont adopté la 6120 par la suite. Pete Townshend, un peu plus récemment. Eddie Cochran, lui qui a vraiment le son caractéristique de cette guitare, qui a épousé un peu ce son, souvent avec une petite réverbe, avec quelque chose de particulier. Et Brian Setzer, surtout, des Straight Cat, qu'il a repopularisé, excusez-moi, à la fin des années 70. Et c'est ce dernier même qui a fait en sorte que la marque... reprennent de la valeur parce que elle avait complètement perdu, était complètement tombée en désuétude. Plus aucun musicien s'intéressait au Gretsch en général et à ce modèle en particulier.
Et bah allez, c'est parti. Du coup, on écoute Bebopalula des Stray Cats et c'est joué avec une Gretsch 6120, 6120, 6120, comme on veut.
Thank you.
Bebopalula des Stray Cats, les chats errants. C'est un groupe qui s'est formé en 79 à New York. Vu l'indifférence de leurs compatriotes, ils se sont dit, bah écoutez, nous on va partir de l'autre côté de l'Atlantique, en Angleterre, et puis on va voir si on peut percer, et ça a marché. Voilà, en plus, surtout qu'en Angleterre, dans les années 80, on cherchait un nouveau style musical, voilà, enfin on voulait un peu redynamiser l'industrie de la musique, et donc là, bah eux, ils ont percé grâce au rockabilly. C'était cool ça, les Stray Cats.
Ouais, à réécouter.
Carrément,
bon,
carrément.
On découvre rien.
Bah non, mais c'est génial, c'est génial. Il n'y a que des morceaux sympas. On a appris plein de trucs dans cette émission. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en la
préparant.
Ouais,
dommage qu'on n'ait pas plus de temps. On pourrait faire carrément une autre émission encore.
Pourquoi pas?
Il y en
Pourquoi
a plein de guitares.
D'ici à la fin de l'année, il va falloir trouver des idées. D'ailleurs, vous, chers auditeurs qui écoutez The First Time I Met The Blues, si vous avez des idées, des suggestions, allez sur studiozef.fr et puis commentez nos émissions. Vous pouvez toujours nous laisser un petit message et nous dire, bah, écoutez, moi j'aimerais bien parler de ci ou de ça. Voilà, tout ça, c'est sur studiozef.fr. Toutes nos émissions sont podcastables. À bientôt.
Bah, à bientôt, salut.
Ciao.